Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ne nous répétons pas, ça dépend de vous, disait François Nourricier à Jean Lebrun, venu s'entretenir avec lui pour une série d'Avoix nues, dont nous avons entendu précédemment les trois premiers volets. Oui, ça dépend de vous, arrachez-moi des secrets. La vie de François Nourricier, qui fut président de l'Académie Goncourt, s'était bien avant cela occupé des réfugiés de guerre, un pionnier humanitaire en quelque sorte. Autre sujet abordé, les maisons visitées, les émissions de télévision où chantent et dansent les jeunes filles et les jeunes garçons, lui que la maladie, Miss P, empêchait de bouger, et puis aussi la Suisse. Voici les quatrième et cinquième volets de cette série, diffusés pour la première fois sur France Culture les 27 et 28 mars 2003. Oui, la Suisse, rayonnons-nous.
Changement de monde pour ce quatrième épisode. François Nourricier est toujours à la recherche de votre géographie. Donc hier, vous nous racontiez Israël. Au fond, Israël, vous l'avez arpenté, découvert, sans vous rendre compte, c'était dans votre jeunesse, quand vous vous occupiez des réfugiés, que ça allait devenir un pays beaucoup plus important encore dans votre vie, que votre destin, comme ça, se préparait dès 49-50. Sans savoir qu'il allait se formaliser dans les années 60-70.
Quand vous dites que dans les années 49-50, j'ai arpenté Israël, j'ai réussi à m'y faufiler, presque clandestinement. Quand on faisait le travail que je faisais, c'était pas très concevable d'arpenter Israël. Les Israéliens l'auraient toléré, mais en me donnant des passeports sur des feuilles volantes, parce que j'aurais jamais pu repartir.
Enfin, vous vous faufiliez dans ce qui allait devenir un pays très important pour vous, quand votre destin allait se formaliser, j'allais dire, allait s'achever.
Oui, oui, sans aucun doute.
Et puis, aujourd'hui, la Suisse. Alors ça, c'est un monde achevé. C'est ça qui vous plaît. Je ne sais pas si vous retournez dans le ventre de l'enfance, dans le souvenir des hôtels de vacances, dans une sorte de sécurité.
Ce sont des choses aussi simples que ça. À quoi s'ajoute un petit détail. En 1935, mon père m'a emmené faire un petit 8 jours de vacances entre hommes, lui et moi. Il avait combiné ça. C'était un cadeau qu'il me faisait. J'étais très fier. Il est mort en novembre 35. C'était donc 3 mois avant sa mort. Et il m'a montré des lieux et il m'a dit, je vais te montrer 2 endroits où j'aimerais qu'un jour on ait une maison. Comme il était exploitant forestier, il aimait la forêt, et les 2 lieux, c'était au-dessus de Genève, Saint-Sergue, qui était un endroit encore assez sauvage à l'époque, puis au-dessus de Montreux, Caux. Et quand j'ai amené ma future femme en 1961, on partait vers les Grisons, je voulais lui montrer la Suisse profonde, et en passant à Genève, j'ai mené à Saint-Sergue, on a déjeuné sur la terrasse. Je l'ai mené 2 heures après à Caux et on a vu ce lieu. C'est un endroit tellement beau et on a vu terrain à vendre. On l'a acheté le lendemain matin. Et nous avons acheté ce terrain, nous avons fait un chalet, que nous l'avons toujours. De sorte qu'il y avait l'accomplissement d'une espèce de souhait de mon père. Alors, je sais bien que c'est toujours un peu facile de dire ça, mais ça s'est passé techniquement comme ça. J'ai pas très bien compris pourquoi j'avais été saisi par ce tropisme helvétique comme ça. Je crois qu'il y a un livre qui a fait beaucoup pour me faire pencher vers ça. C'est un livre de Gonzague de Reynold qui s'appelle Pays et cités suisses. 2 volumes. C'est un historien, Gonzague de Reynold. On est descendant d'une famille qui avait fait beaucoup pour le service étranger, donc pour les Suisses au service des étrangers, en particulier les Suisses au service du roi de France, et qui se sont fait un peu massacrer devant la grille de Versailles. Donc, une Suisse très tournée vers le passé, vers la France, et Gonzague de Reynold était un admirable historien de la Suisse, et de l'Europe à travers la Suisse, pas les hôtels de vacances, pas les comptes sous numéro, pas le le fric un peu, le côté de Zurich. Vous savez, on a un peu l'impression d'être dans un film de Derrick, je trouve, dans la Suisse alémanique maintenant. Mais il y avait une autre Suisse, il y avait la Suisse de la guerre, ils ont été des combattants terrifiants. Il y avait la Suisse du Valais et surtout la Suisse des Grisons que j'aimais et que je continue d'aimer énormément. Et parce qu'en Suisse je retrouvais Nietzsche et parce que tout à côté je retrouvais Jouve. J'ai passé deux ou trois fois des jours et des jours de l'été avec les Jouves dans les Grisons. J'avais une Suisse rêvée dans la tête. C'était une Suisse un peu rêvée et de plus en plus rêvée au fur et à mesure que le temps passe. Quand je pense aux Grisons, je pense pas à Saint-Moritz où j'ai fait du beau ski merveilleux, mais je pense à la descente de la Maloja sur l'Italie, je pense au Bergel, au village de Solio où se déroule un roman de Jouve. C'est une Suisse follement romantique et tournée vers le passé qui fait rêver. Je reprends le mot rêver. J'aurais pu appeler un livre Une Suisse rêvée, je crois. Et vous savez, dans les Grisons, il y a des villages, des hameaux très isolés dans tous les sens. Ils sont toujours des très belles maisons. C'est parmi les plus belles maisons d'Europe, je crois. Il y a les maisons du Pays Basque, les maisons d'Alsace et les maisons des Grisons. C'est pour moi les plus belles. Et ce que j'ai aimé, c'est vrai, un des chemins pour aimer la Suisse, c'était le respect du paysage, la façon extraordinairement soigneuse dont ils ont préservé leur paysage, leur terre. Et ça me touchait beaucoup parce que je trouvais les Français tellement désordre.
Oui, mais la Suisse, elle a échappé un peu à cette métropolisation et à cette banalisation en matière d'infrastructure.
Grâce à la pente, ouais. on peut pas faire une banlieue quand c'est à 45%. C'est vraiment la pente qui a sauvé la Suisse.
Oui, et puis aussi la volonté de contrôler les camions, d'organiser autrement les infrastructures routières.
Oui, mais ça, ce sont des gens de bon sens et travailleurs, et ils prennent des décisions. Les chantiers sont terminés, les dates sont tenues. Alors, il dit, il y a un problème de pollution, on le résout. Il y a un problème de camion, on le résout. Mais ça, c'est le béaba de la vie, je trouve. Et les Français sont un peu anarchiques. Les Suisses ne le sont pas du tout, bon.
Et en matière de démocratie, ils annoncent aussi l'avenir de la démocratie apaisée.
Oui, il y a des choses.
Consultation permanente et locale,
il y a des choses.
Beaucoup d'abstention.
Il y a des choses quand même très très formidables en Suisse. L'organisation, les votations populaires, l'initiative populaire pour une votation. Moi, je me rappelle à une époque où nous y étions beaucoup, il y avait eu un grand scandale. Il y avait un conseiller fédéral qui s'appelait Schwarzenbach, je crois, qui avait c'était une loi qui devait permettre l'expulsion des étrangers. C'était une initiative populaire. C'était un projet de loi très très dangereux. Mais il a pu être présenté, il a pu être discuté avec une grande violence. La votation a eu lieu, il a été repoussé, on n'a plus jamais parlé. Et tout le cycle démocratique était sous nos yeux, et c'était très bien. Alors cette Suisse-là existe encore.
Parce que l'échelon de la vie politique qui vous intéresse, vous, c'est l'échelon local aussi. Vous aimez bien observer la manière dont on débat sur une place de village, dans un espace relativement restreint.
Oui, mais je...
Vous seriez capable de vous passionner pour les élections municipales dans un village de Provence, beaucoup plus que pour une grande consultation nationale.
Je crois pas beaucoup aux grandes consultations, au renouvellement du Sénat et aux élections parlementaires. Ça m'intéresse pas beaucoup. La présidentielle est intéressante parce que c'est quand même le seul instrument qui fonctionne au XXIe siècle encore très bien. Bon, ça, c'est passionnant. Enfin, passionnant. Mais il y a en Suisse, il y a toujours une cette possibilité de prendre l'initiative. Ça s'appelle l'initiative populaire. C'est tout à fait essentiel.
Alors, ce qui vous intéresse aussi en Suisse, c'est le voisinage avec la France. Parce que vous aimez bien les glissements insensibles, les frontières peureuses. Donc, le voisinage de la littérature française, le voisinage de la littérature romande, le voisinage des mots français, leur déplacement dans le vocabulaire suisse, cette légère pente, cette inclinaison qui n'est pas facile à repérer.
On parle de littérature, là. Il est certain que la découverte d'une littérature suisse-romande, donc de langue française mais helvétisée, ça a été très important. Bon, moi j'en étais resté à Benjamin Constant, ça, bon. Mais quand je suis devenu l'ami, que j'ai été accueilli par les écrivains romans, j'ai essayé de leur faciliter le passage en France, et j'ai essayé de m'immiscer un peu parmi eux, de découvrir des œuvres proches et qui n'étaient pas du tout familières. Ça a bien marché. J'ai réussi à faire des accords de coédition pour Chessé, pour Corinne Habille, pour Chapa. Ils ont tout d'un coup existé pour le public français, pas énormément, mais suffisamment pour les apaiser. Parce qu'ils avaient beaucoup souffert depuis que Ramu était venu passer quelques années à Paris et était reparti, résolu à ne plus jamais bouger du bassin des Maniques. C'était un échec pour eux. Donc tout ça m'a passionné sur plusieurs générations. Je suis le dernier à m'être intéressé vraiment à un écrivain comme Pourtalès. Je suis le dernier à avoir été ami d'un homme comme Jacques Chenevière, d'un homme comme Robert de Trat, qui était l'oncle d'un de mes copains du lycée. Il y a eu, autour de La Voile latine, qui était une revue lémanique, il y a eu un morceau de littérature dans les années 1910 à 1940 à peu près. Ce qui a été un beau morceau de littérature. Pour Thalès, c'est très très bien.
Et ça vous intéresse parce que c'est une littérature qui, pour ne pas réveiller l'ogre français voisin, parle à mi-voix.
Parle à mi-voix, oui. Une fois de plus, je lancerai un appel, ça doit être la 100e fois. Il faut lire La pêche miraculeuse, qui est un des grands romans du demi-siècle, de la première moitié du 20e siècle. Pour Thalès, ça a presque été aussi important que Gonzague de Reynold dans ma passion pour la Suisse. Et puis, ensuite, on passe au suivant. Maurice Chapa, c'est quand même un grand poète.
Mais alors ça, c'est une littérature du cri, ça, plutôt.
Non, Chapa,
c'est... Des pamphlets, parfois, enfin, quand il s'attaque
Il y a des pamphlets, oui, les macros
des cimes blanches. Aux adversaires de l'environnement.
Les macros des cimes blanches, c'était... Il fallait le faire, c'était violent, parce qu'il attaquait bille en tête tout l'argent, les banques, etc. Mais il était lui-même une puissance dans le Valais. Les banquiers qui ont fait de mauvaises affaires se jettent au lac, mais ils ne font pas tomber de rocher sur la tête des pamphlétaires, quand même. Mais enfin, c'est violent, hein, les batailles suisses. Et j'ai beaucoup aimé... Georges Borgeot, Maurice Chapa, la femme de Maurice Chapa, Corinne Habille. Ils ont de bons écrivains qui m'ont fait du bien, qui ont fait souffler une espèce de forcénerie sur ma sagesse et ma voix ouatée. Forcénerie, c'est un mot d'eux, ça. Personne en France parle de la forcénerie. Je suis tellement entouré de dictionnaires de français helvétique que quelquefois je ne sais plus très bien, on ne me comprend plus très bien. L'autre jour, j'ai dans un article où j'ai parlé d'un drudzon et j'ai reçu des lettres de protestation. Qu'est-ce que c'est? On a cherché tel dictionnaire. Nulle part on a trouvé le drudzon. Alors, j'ai dit, mais il faut regarder les dictionnaires suisses. On a regardé, nulle part on a trouvé le drudzon. Je commençais à être très inquiet. J'ai téléphoné à Jacques Chessé. Je lui ai dit, mais tu utilises bien le mot drudzon. Il dit, oui, c'est des... Tu vois, les grosses filles dans les fermes, comme ça. J'ai dit, mais dans la gruyère. Et dit non, plutôt entre Féchy dessus et Féchy dessous. Je dis, c'est pas vrai. Et je me suis renseigné, c'est vrai que c'est un mot utilisé dans un ou deux villages, entre Féchy dessus et Féchy dessous. Alors voilà, ça sont des choses qui me rendent très heureux, mais c'est des plaisirs d'écrivain. C'est des jeux avec les langues, la langue et les mots qui font que j'aime beaucoup.
Je ne veux pas vous rappeler de mauvais souvenirs, mais vous aviez perdu un manuscrit que vous avez retrouvé dans la garrigue des mois après, que vous avez renoncé à publier. Et il me semble qu'il commençait par des mots. Est-ce que c'était des mots suisses ?
Il y avait,
je me suis royaumé en toi.
Il y avait un verbe suisse admirable qui est se royaumer. Se royaumer, c'est-à-dire prendre son bon temps.
Donc les premiers mots de ce manuscrit paraîtra peut-être plus tard.
Je me suis royaumé en toi.
Oui.
C'est beau se royaumer, non ?
Alors ça n'est pas curiosité ni préciosité chez vous que de rechercher ces mots-là. Vous avez d'autres exemples ?
De mots comme ça.
De mots suisses. Ben, ou de glissements de sens.
Je ne me rends pas compte.
Du par français exemple, par les Suisses.
Quand l'hiver, le vent souffle des espèces de masses de neige au bord des routes, comme ça, dont il faut faire attention, ça s'appelle une gonfle en Suisse. Et si on se laisse avec la voiture coincée là-dedans, on s'encouble. Alors s'encoubler dans la gonfle. Ce n'est pas du français très traditionnel, mais c'est très beau. Alors, c'est vrai que je m'aperçois que maintenant, m'encoubler est un verbe que j'utilise, dont j'ai étendu le sens. Perdre du temps dans un sentiment inutilement poisseux et sentimental, c'est s'encoubler. Alors là, je joue un peu. Mais oui, j'ai beaucoup d'exemples comme ça.
On pourrait faire la même chose avec la Belgique. Quand vous lisez un journal francophone belge, vous avez des surprises.
Il y a des titres, toutes les cinq lignes. Dans la presse belge, il y a des belgicismes. Dans la presse suisse, il y a des trouvailles. Je vois une petite différence. C'est un peu péjoratif dans un sens et c'est flatteur dans l'autre.
Belgicisme, ça veut dire facilité.
Des belgicismes, c'est... C'est du parler incorrect qui a pris ses habitudes. Je vois pas, en écoutant parler des amis belges, surgir de belles phrases dont ils disent « répète-moi ça, c'est formidable ». Alors qu'on en Suisse tout le temps.
Enfin, en même temps, vous n'avez pas de jugement péjoratif sur ces glissements. Ça vous amuse de les observer. Idem dans la langue courante française.
Oui, mais c'est amusant de voir quels sont, puisqu'on parle tellement de la francophonie, à l'intérieur de la francophonie, il y a des zones plus créatrices que d'autres, qui créent du langage, alors que d'autres ne le créent pas. Il est certain qu'on n'a pas beaucoup entendu parler de mots nouveaux à Madagascar, mais qu'à la Guadeloupe et à la Martinique, il y en a eu de formidables, parce qu'il y a eu des poètes qui ont pris ça en main. Enfin, c'est évident, non, tout ce
oui, mais vous n'êtes pas membre de l'Académie française, vous êtes seulement détenteur d'un couvert à Drouan, à l'Académie Goncourt, donc quand il y a des glissements dans la langue française, parlons de la langue à Paris maintenant, et abandonnons un instant la Suisse, vous ne regardez pas ça nécessairement de manière péjorative, vous regardez ça de manière abusée.
Je suis partisan de donner une place officielle à toutes les trouvailles de langage quand elles sont vivantes et quand elles sont goûteuses, parfumées. Je trouve que beaucoup trop souvent en France, le combat langagier, pour parler comme quelqu'un comme Yves Berger, est un combat de retardement, d'arrière-garde, et qui semble n'avoir comme espoir de victoire que coincer, tenir. On tient le mur et grâce à ça, il va pas s'écrouler. Je crois qu'il faut être beaucoup plus souple et beaucoup plus conquérant. Parce qu'il y a sans arrêt des inventions verbales qui sont excitantes. Il y a dans la cour du lycée, dans les émissions de télévision, mais les émissions pas un peu chicoses, les émissions un peu simplettes au contraire. Il y a tout d'un coup un verbe qui surgit, un mot, il faut vite s'en emparer, il faut lui faire fête. Vous savez, il y a un admirable, deux vers admirables de Supervielle. Il parle des mots, il dit « j'ai pris les plus simples pour leur faire un peu fête ». Alors, je crois qu'on peut faire, la fête aux mots, ça a tous les sens, je te ferai ta fête, ça c'est agressif, leur faire la fête c'est comme une chanson. Et au lieu de bloquer, de dire qu'est-ce que c'est que ce néologisme, il faut les accueillir les néologismes, le français vit de néologisme. Une langue doit être constamment mobile, elle doit jamais être bloquée. Et la défense langagière qui consiste à bloquer la langue la fera mourir d'inanition et de suffocation, je crois.
Alors, il y a deux choses qui vous mettent en colère. Le complexe de supériorité, celui qui décide qu'il sait mieux que les autres, l'histoire des autres. Et puis peut-être l'incuriosité, enfin ça c'est peut-être un néologisme, ça vous met très en colère, l'incuriosité. Que le français ne soit pas curieux des Suisses, voilà qui est idiot et choquant.
Je me suis surpris tout à l'heure à dire une parole un peu facile et bête sur les belgicismes. Alors, il faut se méfier, on est très, chacun de nous est très menacé. L'incuriosité, oui. J'avais senti ça très fort, disons, dans les années vers 1965-70, au moment où j'ai fait cet effort pour faire connaître des écrivains de Suisse romande par les lecteurs français. Ils pourraient les lire très facilement dans... Non, il faut que ce soit des éditeurs français, avec des critiques français qui en parlent dans les journaux français, pour qu'on daigne faire attention. Et c'est vrai que l'incuriosité, c'est le bon mot, des Français m'avait un peu choqué. Mais c'est très difficile d'importer des œuvres quand elles ne sont pas différentes, quand elles sont cousines. J'ai eu souvent l'impression... D'abord, j'ai eu l'impression d'une relative ingratitude. Les Suisses sont pas tellement appréciés que je peux raconter une histoire. C'est mon ami Chessé qui me pardonnera de lui dire une petite méchanceté. Je découvre Chessé vers 1960. Je le découvre faisant des notules dans la NRF de Marcel Arlan et de Jean Paulhan vers 1955-56. À l'époque, vous savez, il y a les notes dans la NRF, il y a les notules. C'est une notion très NRF. Alors, dans les notuliers, il y avait Chessé, Abi Rached. Il y avait quatre ou cinq noms comme ça qui m'amusaient beaucoup. Et un jour, un dimanche après-midi chez Marcel Arlan à Brinville, il les avait invités. Il dit « Ah, mon petit François, j'ai invité, ça va vous faire plaisir. Ces notuliers mystérieux, ils sont tous là. On va tous déjeuner dans l'herbe. » Et je découvre Chessé à ce moment-là. Donc, ça, c'est une vieille amitié. Et puis, j'ai réussi à lui faire co-publier des livres en France, en particulier « Carabas », qui est un admirable livre. Puis, je l'ai présenté à mes amis qui étaient au concours et pas moi, et à Lausanne, je leur ai fait connaître Chessé, puis il a eu le prix Goncourt. Il a eu une sorte de parcours idéal auquel je n'ai pas été totalement étranger. Et comme nous avions des correspondants étrangers à l'époque, on a dit « correspondant pour la Suisse romande, Chessé ». Et il venait tous les mois de déjeuner chez Drouin avec nous.
Vous voyez comme vous êtes précautionneux avant d'avancer une méchanceté. Qu'en attend ?
Ah ben là, elle va arriver. Et quand il a siégé pour la première fois avec nous chez Drouin, je lui ai dit on va profiter de ta présence. Tu connais les choses suisses nouvelles. Si tu repères un romancier suisse qui apparaît, tu nous le signales tout de suite. Il a fait un visage très triste. Et il a dit non, je crois pas que ce soit mon rôle. Non, moi je dirais. Je dirais barrage. Je dirais plutôt barrage. Et ce mot barrage, comme ça, c'était pas la grande dixence, c'était. Il n'y a aucune raison de laisser entrer les autres. Et j'ai découvert que La conquête du public français était quelque chose qu'il n'avait pas tellement envie de partager. Et ça, il y avait donc l'incuriosité des Français, mais il y avait une sorte de résistance aussi des francophones. Ça, c'est une méchanceté quand même, parce que c'est un... Moi, je crois aux passeurs, je ne crois pas aux barrages. Et si on propose à un écrivain d'être un passeur, il ne doit pas refuser d'aller dans l'autre sens. Voilà, ça m'avait un peu troublé.
Cabotage, cousinage, passage, voilà la devise de François Nourricier.
C'était À voix nue, un entretien de Jean Lebrun avec François Nourricier. Réalisation Bruno Sourcy, prise de son Christian Chavallon.
Ce quatrième volet de la série D'A voix nue a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 27 mars 2003. Le lendemain, les auditeurs avaient rendez-vous avec la cinquième et dernière émission de la série.
À voix nue, toute cette semaine, Jean Lebrun s'entretient avec François Nourricier.
François Nourricier est le dernier de nos épisodes à voix nue. Alors vous nous racontiez dans les précédents épisodes vos voyages. Alors maintenant, vous avez une nouvelle compagne que vous présentez depuis plusieurs années à vos lecteurs, qui s'appelle Miss P. Le livre que vous publiez en mars 2003, les éditions Gallimard voulaient d'ailleurs l'appeler Miss P. Alors cette nouvelle compagne vous empêche de gambader?
Il a été question de l'appeler Miss P pour une raison simple, c'est qu'il ne s'agit que d'elle. J'avais envie, dans À défaut de génie, qui est un livre du printemps 2000, et il y avait 7 chapitres sur 80, je crois à peu près, qui lui étaient consacrés. C'était à la fois beaucoup et peu pour moi. Et j'ai eu envie de pousser un petit peu plus loin l'analyse et la description. Parce que, après tout, c'est une sorte de liquide dans lequel je suis immergé. Donc c'est là partout autour de moi. C'était difficile de ne pas en parler. Mais appeler ce livre Miss P, c'était quand même un peu putain, et un peu réchauffé. Et ça, j'avais l'air de tirer la couverture à elle, comme ça, donc à moi. Donc j'ai cherché un autre titre, j'en ai trouvé 4 ou 5 qu'on a trouvé merveilleux, puis j'en ai trouvé un qu'on a trouvé ignoble. Alors que ça va être celui-là. Ça va s'appeler Prince des Berlingots. Prince au singulier, Prince des Berlingots, qui est un titre destiné, comment dire ça, à exprimer une certaine, à donner l'image d'une certaine dérision, d'une dérision certaine, qui me semble être la seule résistance possible, avec les médicaments, à la maladie. Comment traiter la maladie? Alors, il y a des gens qui se traitaient par le mépris. Moi, je la traite par la dérision. J'essaie de rire d'elle, de faire rire d'elle, de faire rire de moi dans les manifestations de la maladie. C'est devenu une sorte de sport. Ça marche assez bien dans la vie quotidienne. Je ne sais pas si ça va marcher dans un livre. Et le titre « Prince des Berlingots » fait allusion à une page, à un chapitre. Il y a une quarantaine de chapitres, à un chapitre qui s'intitule « Honneur, importance et berlingot », quelque chose comme ça. C'est un chapitre qui traite de la réussite, de l'échec de la réussite et tout ça.
Alors la maladie vous empêche de remonter les pentes, de gambader, de voyager autant qu'autrefois. Puis alors vous dites depuis des années qu'elle provoque des trous de mémoire. Stanislas Fuma disait « Moi, j'ai des trous de mémoire si grands que des dauphins pourraient s'y ébrouer ». En fait, vos lecteurs ont l'impression que vous êtes malade depuis longtemps parce qu'ils vous ont toujours trouvé hypochondriaque.
J'ai toujours été hypochondriaque. Comme tous les hypochondriaques, j'avais une assez mauvaise santé, mais pas très mauvaise. Ça elle m'empêchait nullement de faire de la montagne ou de faire du ski ou de faire un peu de bateau, des choses comme ça. Et surtout, elle ne m'a pas empêché pendant 20 ans de monter à cheval, qui a été vraiment la passion de ma jeunesse.
Et puis, il y a eu un moment où j'ai eu rendez-vous avec, comme tout le monde, avec les emmerdements. J'ai commencé à passer beaucoup de temps dans les hôpitaux, beaucoup de temps sur le billard. Et puis, il y a eu cette maladie de Parkinson qui, elle, a une façon très différente d'occuper le terrain. Mais c'était intéressant dans la mesure où ça fait partie des gros... des continents explorés et inexplorés à la fois. Il y a Alzheimer, et il y a Parkinson, il y a la sclérose en plaques. Ce sont les grandes maladies neuronales, comme ça, qui occupent pas mal les services hospitaliers. Et c'était intéressant d'entrer dans une qui permet qu'on y entre, parce que l'Alzheimer, on ne peut pas y entrer. C'est un sujet qui se détruit lui-même, et que j'ai eu très très peur. Alors il y a aussi toute une réflexion sur est-ce qu'une maladie vous protège des autres ? Est-ce que réellement une neuronale vous protège d'une autre neuronale ? Voilà, c'est une réflexion enjouée sur l'expérience d'une maladie évolutive. Et qu'est-ce que représente l'évolution ?
Alors, vous êtes intéressé par ces maladies parce que ce sont des maladies en extension dans le monde moderne et vous êtes toujours donc passionné par la mobilité et le changement du monde. Il me semble qu'il y a une phrase de vous ancienne, alors là vous faites référence aux maladies du passé et qui pourrait s'appliquer aussi à la situation dans laquelle vous êtes. Ah, il y avait la tuberculose, le cancer, les conversations, Dieu merci, ne sont pas près de manquer de matière. Vous disiez ça dans un livre ancien, des maladies d'autrefois.
Oui, c'est vrai que tout ça m'a toujours intéressé. Quand j'ai, en 1946, je faisais un séjour en Haute-Savoie, dans ce chalet des étudiants que j'aurai l'occasion de diriger quelques années plus tard. Et j'écrivais un premier roman, un premier manuscrit. Alors je disais à mes petites copines, tu vois, ce dossier-là, c'est un roman, ça va être un... Alors elles me regardaient comme ça. Et une, je vois, regardez, et le titre, qu'est-ce que c'est ? Et ça s'intitulait « L'homme malade ». Et j'avais 19 ans, et le titre du premier roman que j'essayais de terminer, c'était « L'homme malade ». Et j'aurais pu le reprendre, ce titre, si j'ose dire, mot pour mot. L'homme malade d'être malade, d'avoir peur d'être malade, voilà tout ça. Je pense que j'ai été, au début du Parkinson, j'ai été malade de l'idée d'évolution. Quand on dit, vous verrez bien, le rythme, ça dépend, on peut rien dire, vous allez voir, ça change. Bon, la peur du changement, de l'aggravation, occupe complètement. Donc, on projette toujours quelque chose. Et ça correspond bien à ma façon de penser. C'est vrai que j'ai toujours projeté des choses. Dans les romans que j'ai faits, ceux qui présentent un certain intérêt à mes yeux sont ceux qui sont des hypothèses sur moi projetées dans l'avenir. Si j'avais été écuyer, c'est en avant calmé droit. Si j'avais été peintre, c'est l'Empire des nuages. Si j'avais été un petit médecin de quartier, c'est le gardien des ruines. Et j'ai réussi à faire un roman en projetant une hypothèse aussi proche que possible de la vraisemblance sur mes vies possibles. Donc ça correspond bien, je suis en prospective perpétuelle.
Oui, et en observation de vous-même. Alors, quand je décrivais les signes de la maladie, vous n'avez pas relevé ce que je disais, les trous de mémoire. Peut-être avez-vous oublié ma question.
Alors, les trous de mémoire, ça a commencé à me faire très peur. Lorsque j'ai commencé à travailler, j'étais dans le gros vraiment du travail sur à défaut de génie. Et je me suis aperçu qu'il y avait tout un travail de remémoration qui était possible. On pouvait colmater. Et ce livre a été en partie un travail de colmatage. Je ne sais pas si colmatage c'était le bon mot. J'ai bouché les fuites. Et en travaillant sur la mémoire, j'ai retrouvé de plus en plus de mémoire. Alors, on commence par se rappeler les épisodes, et puis on se rappelle les mots, et puis on finit, c'est le plus difficile, par se rappeler les noms. Avec les noms, j'ai encore beaucoup de problèmes, et tout le monde a des problèmes avec les noms, mais ils sont un peu plus aigus. Mais je me suis tellement battu, pendant les 2 ans où j'écrivais ce livre, pour restaurer la mémoire, que j'ai quand même contrarié la pente. Et je dois dire que depuis quelques mois, j'ai été pris en main par un neurologue, dont je ne dirai pas le nom ici, mais qui est un homme que je trouve très intelligent, et qui m'a dit, je vais pas vous faciliter beaucoup les mouvements, la marche dans la rue, tout ça, mais la tête, je peux m'en occuper.
Donc le choix, c'était en avant, calmer droit dans la rue, paraître élégant, égal à ce qu'on était, ou bien
oui.
Pouvoir travailler.
Oui. Alors j'ai choisi bien évidemment le travail, et il a tenu sa promesse. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui un sentiment, vous voyez, je ne suis pas particulièrement perdu avec le vocabulaire, je retrouve les mots, j'hésite un peu comme ça, il y a un syndrome des portes toujours. Mais ça revient. Mais les chiens viennent quand je les siffle quand même. Alors que j'avais plus cette impression il y a 3 ans. Donc, pour l'instant, j'en suis là. C'est la position des lignes ennemies au mois de décembre 2002. Mais je me sers quand même de cette maladie pour mieux me connaître moi, et quand même pour me sentir mieux dans une catégorie. Je ne me sens pas du tout singulier en expliquant une maladie. J'ai le pouvoir d'avoir cette curiosité, de mettre cette curiosité en mots, donc j'en profite. Voilà, rien de plus.
Oui, mais ce que vous décrivez, c'est aussi un combat. Et alors, à partir du moment où vous le rendez public, vous appartenez à ce qu'on appelle cette manière emphatique là, qui caractérise le vocabulaire contemporain, la communauté des malades. Alors vous allez devenir une figure des malades. Je suis sûr qu'on vient vous consulter,
j'ai reçu une énorme correspondance. Et quand les gens disent une énorme correspondance, ça veut dire qu'ils ont reçu 13 lettres en général. Quand on arrive vers 400 ou 500, ça commence vraiment à faire... ça pose un problème. Alors j'ai choisi de répondre aux lettres intéressantes et pas aux autres. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont venus me voir, qu'on me demande d'aller prendre la parole devant des congrès de neurologues pour dire ce que je veux pendant une heure. Je refuse, bien entendu, en leur disant si j'ai quelque chose à dire, je l'écris. Si c'est écrit, vous pouvez l'acheter. Ça vaut 18 euros et voilà. Mais... c'est pas très dérangeant, ça, la correspondance, les gens qui veulent venir vous voir.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que la politique n'étant plus là où elle était, la maladie peut devenir un combat politique. Alors, il y a une communauté des malades du sida, il pourrait y avoir une communauté des malades du cancer, une communauté des malades de Parkinson, qui veulent s'exprimer devant les médecins, qui veulent en savoir autant que les médecins, qui exigent que leur dossier médical leur soit délivré.
Ils n'en savent pas beaucoup, les pauvres médecins. Oui, je pense que je suis trop vieux pour commencer ce genre de combat et d'engagement, mais je comprends que d'autres le fassent. Mais j'aurai 45 ans et la même maladie au même stade de développement, je militerai, sûrement.
Imaginez ce que pourrait être ce combat. Alors, vous dites, les médecins n'en savent pas plus que nous. Le combat, ça consisterait à pouvoir tenir tête aux médecins ou à travailler avec eux à égalité.
J'ai pas l'impression qu'il y ait autour du Parkinson une injustice, une violence faite aux malades, etc. C'est une maladie assez à mi-voix, comme ça. C'est peut-être pour ça que je m'y intéresse aussi. Ça correspond à mon volume de voix. Il n'y a pas de mouroir, il n'y a pas de... très différent du problème Alzheimer, où là, on a la violence qui intervient à certains moments, l'étrangeté totale à la famille et au milieu, et finalement le mouroir. C'est... Les fins d'Alzheimer ne sont pas belles à voir. Alors là, il y a des choses à faire, sûrement. Dans le cas du Parkinsonien, ça me paraît moins tragique.
Mais vous en faites un objet de livre pour vous prouver que votre talent ne décline pas, mais certains sont écartés de leur emploi à cause de la maladie.
Oui, c'est vrai, je me suis trouvé pris dans des cas comme ça, où on est venu me demander une sorte de témoignage. J'ai porté ce témoignage, je me suis retrouvé devant un ministre en lui disant « Bon, voilà ce qu'on fait à monsieur Intel. Il est venu me voir deux fois, il est venu me voir, il a pris le tramway chez lui, il a pris le train, il a pris le métro à Paris, il est arrivé chez moi, il a monté l'escalier, il a bavardé une demi-heure. Je peux vous dire qu'il est capable de tenir son emploi encore sans doute 3 à 4 ans. C'est un fonctionnaire, faites-le fonctionner. J'ai obtenu gain de cause. C'est vrai que... mais sur des cas précis comme ça, émouvants, je me battrai. Mais je ne ferai pas une affaire de... Je ne créerai pas une association.
Alors le fonctionnaire veut prouver qu'il fonctionne et réclame son emploi. Et vous, quand vous multipliez les activités, les dîners, les réceptions, les entretiens à la radio, vous voulez vous prouver que vous fonctionnez toujours?
Oui. Il y a une part de stupidité. Il y a une part de hâblerie, il y a une part de... Mais bon, pour reprendre l'expression à la mode, mais bon. Je me sens pas très, très coupable dans cette histoire d'avoir confisqué la maladie à mon profit comme ça. Les ces jours-ci, j'ai fait les dernières toutes petites corrections sur le manuscrit du livre qui va paraître au printemps. Et je suis tombé sur une phrase que j'avais oubliée et qui est assez juste. Je dis, en somme, la maladie me sert d'alibi et de marchandise dans la contrebande autobiographique dont j'ai fait mon métier. Et je crois qu'il y a, tous les mots importants. Il y a autobiographie, il y a contrebande, il y a alibi et il y a marchandise. C'est vrai que... Il faut un tout petit peu d'audace ou de une sorte de courage, employer le mot effrayant, pour dire bon ben ce que l'on cache, ce que l'on essaie de draper dans l'effort, dans l'élégance, etc. Moi, je vais en parler de façon quotidienne, triviale, brutale, moqueuse. C'est aussi un peu de superbe. Il faut porter beau. Il faut faire belle la figure, hein, le plus longtemps possible. Le jour où on trébuche et où on donne la preuve que ça ne va plus du tout, et Dieu veuille qu'on ait un peu de lucidité et qu'on réagisse vite. On ne peut pas savoir.
Moi, je ne crois pas. J'ai l'impression que vous vous sentez meilleur, je parle de l'écrivain, qu'auparavant, et que vous en avez des preuves multiples. Vous relisez vos livres anciens, vous acceptez qu'ils soient republiés, enfin, vous faites le tri. Corrigez les épreuves, parce que ces livres sont recomposés, donc vous les redécouvrez mot à mot. Vous avez aussi le sentiment d'avoir de nouveaux types de lecteurs que vous n'aviez pas avant. Et ça, c'est une preuve.
Il y a des tas de questions ensemble, là. Je n'ai pas relu, vous savez, les gens faisaient des éditions revues et corrigées. Je crois qu'il ne faut pas corriger une réédition. J'ai écrit ça en 1983, c'était comme ça, je ne vais pas l'arranger modèle 83 rectifié 2002. Ce n'est pas bien. Je crois que ce n'est pas bien. Si on trouve que ça a trop de défauts, on ne permet pas la réimpression, c'est tout. Alors, c'est une plongée quand même dans le travail de jadis et naguère. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on fait comme découverte? J'ai découvert qu'il y avait une certaine unité dans mon travail, une unité que je souhaitais mais que je ne pensais pas avoir réalisée en partie. Donc là plutôt une bonne surprise. Et sur le plan du style de l'écriture, j'ai quand même mesuré combien j'avais été prisonnier du coup de violoncelle, du coup d'archer, comme ça, de la musique un peu classique, un peu moderne. Je savais faire ça. Je savais faire ça de naissance, comme ça, par hasard. À 20 ans, j'écrivais très bien, mieux que maintenant. C'était le violoncelle, c'était la musique. Il y avait deux, trois musiques comme ça, Barrès, Chateaubriand, Bossuet, que j'avais dans la tête, et je pouvais jouer un air ou l'autre. Alors ce que la modestie qu'on apprend en se relisant un peu, c'est que le vrai travail n'est pas là. Le vrai travail, c'est savoir dans quelle direction on veut faire bouger l'instrument. Il ne s'agit pas de bouger le violoncelle, il s'agit de savoir s'il n'y a pas autre chose que le violoncelle. Est-ce qu'on est capable de jouer autre chose que du violoncelle ? Aujourd'hui, mon ambition, c'est de bousculer la phrase, c'est de bousculer la prose, c'est de m'amuser davantage, c'est de provoquer davantage, c'est de secouer tout ça. Alors que je n'avais pas du tout cette tentation-là. J'avais très peu cette tentation-là quand j'avais 30 ans. Donc là, il y a une évolution qui coïncide assez bien avec les possibilités. Si je suis si la maladie me met un petit peu en charpie ou en poudre, comme ça, m'effrite un petit peu, peut-être que ce ne sera pas inutile à l'effort d'écriture et de style que je voudrais faire maintenant. Donc là, j'ai le sentiment, quand vous dites, vous avez le sentiment d'être meilleur, j'ai le sentiment d'avoir découvert peut-être ce que j'aurais dû faire un peu plus tôt.
Plus aigu, moins arrondi.
Moins arrondi, plus... Il faudrait des mots de danse, vous savez,
moins souple.
Le swing pour la musique, le chimie pour la danse. C'est-à-dire secouer un peu le bocal.
Vous ne faites pas du tout confiance, François Nourricier, à l'analyse dans une maladie. Vous faites confiance à la chimie, aux médicaments.
Là j'ai eu affaire, quand j'en ai parlé au médecin, d'abord, j'ai découvert que le monde de la psychiatrie, de la neurologie, de la neurochirurgie et de l'analyse, c'est un monde complexe, multiple, avec des rivalités, des haines, des explications différentes du monde. Enfin, moi, j'ai connu un peu Lacan, je suis allé l'écouter, j'ai eu des dîners tête-à-tête avec Lacan, où je le faisais parler. Enfin, ma première femme était neuropsychiatre, j'ai donc connu à travers elle toutes les vedettes de Sainte-Anne d'une certaine époque, il y a longtemps. Donc je me suis beaucoup frotté à tout ça, avec toujours de la réticence, de la méfiance et un peu de crainte. Et j'ai cru les médecins quand ils m'ont dit « Vous ne relevez pas du tout de l'analyse. Vous relevez de la neuropsychiatrie qui est dans son meilleur pour l'instant et chimique. » Et qui sans doute pour le Parkinson va évoluer avec des essais qui sont faits en ce moment et qui semblent réussir d'électrodes, d'impulsions envoyées par des électrodes qui seront implantées aussi près que possible par la partie du cerveau alimentée par une pile. Enfin, tout ça est en train de se mettre en route, paraît-il, entre Grenoble et Lyon. On sait faire ça là-bas et ça va aller très vite, je pense, maintenant. Ça concerne plutôt des gens plus jeunes que moi, parce que ce sont des aventures chirurgicales encore très, très, très longues. J'avoue que j'hésiterais un petit peu à m'embarquer dans une opération où on me dit « Oui, l'anesthésie durera peut-être 7 heures, 8 heures, 9 heures. »
Mais vous en savez très long sur les possibilités à venir des traitements, sur les associations médicamenteuses.
Très peu.
Alors vous avez toutes sortes de dictionnaires des langues, des mots.
Très peu.
Et est-ce que vous avez des dictionnaires de médecine ?
Non, pas un. Je n'ai jamais eu chez moi, je n'ai jamais ouvert. Je n'ai pas ouvert un dictionnaire de médecine à la page Parkinson. Rien. Rien. J'explique ça dans le livre. Enfin, je constate. Je n'ai jamais demandé aux médecins comment cela va-t-il évoluer. Ils adorent qu'on ne leur demande pas. Ils disent « Oh, ben vous allez voir, vous savez, c'est tellement différent d'un patient à l'autre. » Il noie le nageur, comme ça. J'ai même mis un soin furieux à ne pas savoir.
Mais vous dites « Moi, ça m'est égal ce qui va se passer après ma mort. »
Non, c'est... J'ai essayé pendant des années d'être sûr de moi, de me moquer vraiment de ce qui se passerait le lendemain de ma mort. C'est pas le surlendemain, c'est le lendemain, c'est le premier tiroir qu'on ouvre, la première enveloppe contenant des lettres qu'on trouve et on dit « je jette, j'ouvre, qu'est-ce que je fais ?» C'est tout ça, c'est les premières fois, le premier matin où les gens se réveillent et disent « ah c'est vrai, il est mort ». Tout ça, c'est assez passionnant quand même à imaginer. pour le reste.
Mais vous avez déjà tout avoué avec presque,
non, bien sûr que non.
Après, avec presque de la délectation.
Bien sûr que non, bien sûr que non. Une vie complètement éventrée par des littératures comme semble être la mienne est pleine de secrets, bien sûr. Bien sûr.
Ah ben, c'était donc une technique, délivrer beaucoup de secrets pour pouvoir, face aux questionnements, les répéter et en dissimuler d'autres.
C'est une réaction d'homme à peu près bien élevé. Il y a une certaine qualité de chiennerie dont on peut se faire la victime, mais qu'on ne peut pas imposer aux autres. La chiennerie commence quand on met les autres dans le coup, quand on mouille des gens qui n'ont pas envie d'être mouillés. Quand on fait des aveux qui sont désobligeants pour d'autres. Ça, et là-dessus, j'ai été bête comme un colonel. Ça ne se fait pas, et puis c'est tout.
Hein. Vous vous dites, j'espère que dans ma famille, comme en moi, dans ma vie, il y a des secrets.
Il y en a.
C'était À Voix Nue. Jean Lebrun s'entretenait avec François Nourricier en décembre 2002. Réalisation Bruno Sourcy. Prise de son Christian Chavallon.
Ces quatrième et cinquième volets À Voix Nue François Nourricier au micro de Jean Lebrun ont été diffusés pour la première fois sur France Culture les 27 et 28 mars 2003. Vous pourrez les réécouter en ligne ou les télécharger sur le site franceculture.fr à la rubrique des nuits de France Culture ainsi que les trois premiers volets de la série.
She was dirty.